des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale, car placée sous le signe de Judas. Judas, le titre, est peut-être le héros, le fantôme, l'allégorie, qui sait, qui hante le nouveau et très beau roman d'Amos Oz, qui paraît chez Gallimard. Amos Oz, l'un des plus grands, sinon le plus grand écrivain israélien, souvent donné nobélisable, et avec lequel nous allons avoir la chance de passer presque une heure. Bonjour Amos Oz.
Shalom, good to be with you.
Amos Oz, vous êtes né à Jérusalem en 1939 dans une famille d'origine russe et polonaise. Oz, c'est un nom que vous avez pris à 15 ans. Après vous être opposé à votre père, vous décidez alors de ne pas être un intellectuel, comme lui, il était, mais conducteur de tracteur dans un kibboutz. Et finalement, vous avez eu beau changer de nom, vous êtes quand même devenu un intellectuel, puisque vous êtes un homme des mots, un écrivain. Est-ce là, au fond, votre plus grand échec ?
Non,
ce n'est pas un échec, c'est de l'ironie. Il y a beaucoup de révolutions dans le monde. Et si elles ne font pas cette révolution un tour parfait, alors ça fait une demi-révolution. Mon père souhaitait que je sois dans une pièce remplie de livres et que j'écrive encore des livres, comme lui. Et puis bon, je suis dans une pièce remplie de livres et j'écris des livres. Mais ce ne sont pas les livres qu'il aurait souhaité que j'écrive. Et donc, ce cercle que j'ai fait, donc c'est un cercle partiel et non pas un cercle parfait total.
Mais il faut toujours faire mentir le père.
Mon père et moi, on se dispute chaque jour depuis même sa mort, il y a 45 ans. Mais ça n'empêche pas que nous nous disputions chaque jour.
Il vous parle, il est là, quand vous écrivez.
On parle chaque jour, bien sûr, il est là. Et ça ne me coûte même pas une communication téléphonique avec mon cellulaire.
Alors, Amos Oz, vous êtes un auteur fêté, vos livres sont traduits dans une trentaine de langues, citons « Connaître une femme »,« La boîte noire » et « L'admirable, une histoire d'amour et de ténèbres ». Vous avez reçu le prix Goethe en Allemagne, le prix Prince des Asturies, le célèbre prix de la paix des libraires allemands, le prix Kafka. Vous êtes aussi un auteur engagé dans les années 70 avec des essais qui dénonçaient les dérives du sionisme. Vous avez été l'un des premiers intellectuels de votre pays à proposer dès le lendemain de la guerre des six jours la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Vous êtes le cofondateur du mouvement La Paix Maintenant, mais vous restez un formidable romancier, et c'est le cas avec ce Judas, donc, qui vient de sortir chez Gallimard, très bien traduit par Sylvie Cohen, et j'en profite pour saluer celui qui vous interprète aujourd'hui, qui est à vos côtés, Michel Zlotowski. Ce livre, Judas, eh bien, il est question, dans ses pages, de la Bible autant que de la création d'Israël, et aussi d'amour. C'est un merveilleux livre, plein de mystères, plein de sens, et je vais tout de suite en poser l'intrigue. On est à Jérusalem en 1959, un jeune homme, Shmuel, une sorte d'intellectuel, interrompt sa maîtrise sur Jésus pour entrer au service d'un vieil homme, Gershom, un intellectuel aussi dont il sera l'homme de compagnie. Il est logé chez lui et découvre sous le même toit un personnage absolument fascinant, une femme que j'adore, qui s'appelle Atalia, qui est plus âgée que lui, qui est la belle-fille de Gershom, la veuve de son fils. Et il va découvrir qu'elle est aussi la fille d'une des plus grandes figures du mouvement sioniste. Alors c'est un roman, Amos Oz, qui entrelace l'histoire d'amour et la grande histoire, celle de la Bible, celle d'Israël. J'ai noté que vous disiez « J'écris des histoires sur des gens qui existent réellement, c'est la vie qui est ma seule source d'inspiration. » À quelle source d'inspiration doit-on ce Judas et les fascinants personnages qui s'y déploient ?
En fait, ce livre est né deux fois. La première fois, c'est lorsque j'étais un étudiant pauvre à Jérusalem, moi-même. Pendant un ou deux ans, probablement après que Shmuel soit arrivé à Jérusalem. Il est plus vieux que moi, il a 50 plus que moi. Mais j'ai bien connu cette Jérusalem triste et blessée. Une ville divisée. Stop, mine devant vous, avec des fils de fer barbelés, etc. Une ville très pauvre, avec des interruptions d'électricité très longues, des gens qui étaient chez eux le soir et la nuit. Tout le monde lisait et écrivait sans cesse. Vous savez, cette Jérusalem-là est très semblable à Atalia, blessée, isolée et en colère. Lorsque je pense à Jérusalem de la fin des années 1950, et lorsque je pense à Atalia, j'entends des sons que l'on entend véritablement la nuit, l'hiver. Et c'est là qu'est né finalement ce livre pour la seconde fois. Mais la première fois, il est né lorsque j'étais un garçon âgé de 16 ans, au kibbutz. Et j'ai décidé que je devais lire les évangiles, le Nouveau Testament. Dans aucune école juive en Israël ou en France, on enseigne les évangiles. Et j'ai compris que si je voulais connaître quelque chose à l'art de la Renaissance, ou à la musique de Jean-Sébastien Bach, ou comprendre quelque chose au roman de Dostoïevski, moi aussi, je devais lire cette histoire extrêmement célèbre. En dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Tous les garçons du kibbutz, ils allaient jouer au basket le soir ou cavaler après les filles. Et moi, j'avais aucune chance au basket et encore moins avec les filles. Et donc, je suis allé chercher Jésus. J'ai lu l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce poète extraordinaire, Jésus. J'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais bon, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, et je suis pas encore non plus aujourd'hui d'accord avec lui à 100%. De toute façon, il n'y a pas deux Israéliens qui soient d'accord l'un avec l'autre. De toute manière. Donc il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec Jésus. Mais, lorsque je suis arrivé à l'histoire de Judas, sur le baiser le plus célèbre de l'histoire du monde, c'est beaucoup plus célèbre que l'histoire de Roméo et Juliette, cette histoire des 30 deniers. Alors là, j'étais très en colère. Pas en tant que juif, mais en tant que détective. Toute cette histoire ne tient pas debout.
Exactement.
Ni l'argent qui est versé, ni le baiser qui est donné. Personne n'avait besoin de faire quoi que ce soit pour reconnaître Jésus. Tout le monde savait qui c'était. Pourquoi fallait-il payer quelque chose à quelqu'un qui désigne ou qui dénonce, quelqu'un de connu, quelqu'un qui ne cherche pas à se cacher, quelqu'un qui ne cherche pas à fuir.
Et quelqu'un qui était riche, parce que Judas Iscariote était
riche. Mais oui, Judas était riche. C'était pas un pauvre pêcheur du lac de Galilée. Et les 30 deniers d'argent les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Mais j'ai vérifié, ça représente à peu près, en monnaie d'aujourd'hui, 600 euros. C'est pas mal, enfin pour un homme riche. Qu'est-ce que ça veut dire, vendre son Dieu, vendre son maître, son professeur, celui, son guide, pour 600 euros? Et s'il le fait, pourquoi aller se pendre immédiatement après?
Et,
en fait, qui devait lui payer ne serait-ce qu'un denier, un cycle, un shekel? Alors que tout le monde savait qui était Jésus. Et Jésus n'a pas cherché à s'enfuir. Il n'a pas non plus tenté de dire à ce moment-là, non, moi je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle Donald Trump.
Mais non,
alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent ?
50
années se sont écoulées et Shmuel a trouvé une autre histoire. Est-ce que ce que Shmuel a découvert, c'est vraiment ce qui s'est passé là-bas ? Je
ne
sais pas, j'y étais pas. Le vendredi, jour de la crucifixion de Jésus, c'est exactement le moment où moi j'avais rendez-vous chez mon dentiste. Donc j'ai raté la crucifixion. Mais je pense que l'histoire de Shmuel est beaucoup plus convaincante que l'histoire qui est rapportée dans le Nouveau Testament.
Ce que vous dites, Amos Oz, c'est que ce texte, hein, ce Nouveau Testament, vous le lisez au fond comme une œuvre littéraire, comme une histoire, au fond toute simple, dans laquelle il y aurait des imperfections que vous, le romancier, êtes en droit de questionner, et surtout d'en questionner la véracité, la crédibilité, comme un détective.
Comme un détective. Mais ce n'est pas simplement une histoire mal tournée.
Ce
n'est pas quelque chose qui ne tient pas la route comme histoire. Cette histoire, pendant 2000 ans, c'est le Tchernobyl de l'antisémitisme en Europe. Des centaines de milliers de juifs sont morts à cause de cette histoire. Ont été poursuivis, ont été maltraités, ont été torturés, on les a haïs pendant 2000 ans. Nous sommes tous des assassins de Dieu. Nous sommes tous Judas. Nous sommes tous des gens qui aiment l'argent. Nous sommes tous des gens qui ne croient en rien. C'est une histoire extrêmement dangereuse. Ce n'est pas simplement une histoire mal écrite. Mais c'est une des histoires les plus criminelles de toute l'histoire de l'humanité.
Et cette réflexion, Amos Oz, que vous vous êtes faite en disant « Non, ce n'est pas crédible ». Ces 30 deniers, tout ce que vous venez de nous expliquer, ça c'est une découverte que vous avez faite à l'époque où vous aviez l'âge de votre personnage, Shmuel, où vous étiez dans le kibbutz et où vous lisiez le Nouveau Testament.
Je l'ai vu tout de suite quand je l'ai lu pour la première fois, que ça ne tenait pas la route.
Alors vous dites que ce roman est né deux fois, une première fois à cette époque-là et puis une seconde fois plus tard. Pourquoi Judas, le livre, n'arrive-t-il que maintenant ? Pourquoi, vous, pendant toutes ces années, vous avez gardé, au fond, cette vérité que vous aviez trouvée, ou cette incohérence du texte des évangiles ?
Parce que ça ne m'intéressait pas d'écrire un papier universitaire sur l'antisémitisme chrétien. C'était un boulot pour mon père, pas pour moi. Moi, j'ai attendu 50 ans que Shmuel arrive. Et ce livre est né lorsque Shmuel a rencontré cette histoire de Judas. Lorsque Jérusalem a rencontré Atalia et Vald. Et Atalia a apporté avec elle son père. Et c'est comme ça que j'ai commencé le récit, dans une petite maison, un bout de Jérusalem, un homme âgé, un homme jeune et une femme entre deux âges, qui pendant tout l'hiver parlent et boivent du thé. C'est tout. Pourquoi quelqu'un lit un livre tel que celui-là ? Ça, je ne comprends pas. Mais il y a quelques fantômes qui se sont infiltrés également dans cette histoire.
Micha Vald,
que c'est Isaac, c'est l'Isaac de la ligature d'Isaac. C'est Jésus, c'est Judas, et c'est Judas Iscariot. Eux aussi se promènent dans cette maison. Ils
ne
sont pas revêtus d'un drap blanc et remuent des casseroles la nuit, non. Mais ils sont là.
On comprend mieux, Amos Oz, la genèse, si je puis dire, de ce roman. Vous venez de dire, j'ai attendu 50 ans que Shmuel, donc, qui est le personnage principal, hein, de cette, enfin principal en tout cas, le héros, peut-on dire, de ce Judas, Comment a-t-il fait pour advenir? Comment est-ce qu'il s'est manifesté, ce Shmuel, qui vous ressemble beaucoup, visiblement, qui ressemble à ce garçon que vous étiez, pour advenir 50 ans plus tard? Comment s'est-il manifesté?
C'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Je n'ai pas de modèle vivant. Et par opposition à Shmuel, qui est quelqu'un de très dispersé, moi, j'ai toujours été un garçon très rangé. Je n'ai jamais eu de barbe. Et ma relation aux femmes était un peu différente de la sienne.
Mais
c'est pas une représentation de moi, c'est pas moi-même, mais il m'est proche. Tous me sont proches. Même les morts et les vivants. Celui qui ne m'est pas proche, je ne peux pas le décrire.
C'est quelqu'un que vous décrivez, Shmuel, comme un garçon grassouillé avec une barbe d'homme des cavernes, un homme de Néandertal, dites-vous, qui en même temps suscite le désir des femmes, un enfant, d'ailleurs les femmes en parlent comme un enfant. Je voudrais qu'on parle de cette Atalia, absolument magnifique, et je voudrais savoir aussi comment vous travaillez avec ce personnage de femme, car Atalia, vous la décrivez toujours, Amos Oz, la main sur la hanche, les cheveux encadrant le sein, et avec une particularité physique qui revient à chaque fois que vous la décrivez, elle a un profond sillon creusé entre la base du nez et la lèvre supérieure. Shmuel a d'ailleurs envie de passer sa langue le long de ce sillon. Un personnage, c'est d'abord une attitude, quelques accidents physiques. Vous avez parlé d'une femme blessée, mais c'est aussi des accidents physiques, un personnage de femme.
Je n'ai pas eu de modèle vivant. Aucune femme ne posait pour moi pour que je la dessine de cette manière-là.
Alors,
ben, je ne sais pas. Mais ce n'est pas que Atalia qui est dans ce cas-là. Tous mes personnages, je ne sais pas. Ils viennent à moi. C'est eux qui viennent à moi. Comme dans un rêve. Ils ne viennent pas dans un rêve. Mais c'est comme dans un rêve. Tout d'abord, je vois quelque chose de très brumeux. Quelque chose de très général. Un concept. Et puis après vient le sillon très sexy entre la base du nez et cette lèvre. Ça vient à la fin. Moi, j'ai pas fait attention, mais un des critiques en Israël a noté que dans ce livre, c'est une femme critique, hein, Atalia change de vêtements 32 fois. Et moi, j'ai pas fait attention, mais à chaque fois, elle portait quelque chose d'autre dans mon livre.
Elle a toujours ce parfum de violette, en revanche.
Ah oui, c'est toujours le même parfum.
Et le flacon bleu de la fin, exactement.
Très, très joli, oui. C'est une femme qui est en colère contre tout le genre masculin. Elle pense que tous les problèmes du monde viennent du fait que ce sont les hommes qui ont le pouvoir. A-t-elle raison? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle exagère un peu. Peut-être qu'elle pense que tous les hommes dans le monde, ce sont des ados ad aeternam, qui ne deviendront jamais adultes. A-t-elle raison? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle exagère un peu aussi. Elle croit aussi qu'il ne peut pas y avoir une chose comme celle-là. Un homme qui ait une morale. La morale chez l'homme, ça ne vient que par intermittence, très bref, au moment où son désir sexuel est rempli. A-t-elle raison? Est-ce qu'elle exagère? Je ne sais pas. Elle me fascine. Parce que c'est une femme qui fait exactement ce qu'elle veut. C'est une féministe avant l'heure. Elle travaille alors qu'elle a hérité l'argent de son père. Elle fait rentrer dans son lit qui elle veut et elle le jette comme elle veut. Elle dit ce qu'elle pense. Est-ce que j'aurais aimé vivre avec une telle femme? J'en suis pas certain. Coucher avec elle, ça certainement. La connaître mieux, ah oui. Mais tout ça n'a aucune importance.
Cette femme, vous en avez parlé aussi à Amos Oz, comme au fond, presque, une incarnation aussi de Jérusalem. Il y a quelqu'un que vous avez certainement apprécié, qui s'appelait Umberto Eco, qui parlait dans Lector in Fabula de son lecteur modèle et puis de la nécessité, au fond, de faire au lecteur un travail aussi. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de vos lecteurs, de justement faire des rapprochements entre Atalia et Jérusalem? Est-ce que vous attendez du lecteur qu'il soit un partenaire de l'écrivain?
Effectivement, le lecteur est un associé total, plus que dans tout autre art. Au cinéma, au théâtre, on voit, on entend. Au concert, on entend. Dans les expositions, on voit les tableaux. Mais dans les livres, il n'y a rien. Vous allez prendre quelqu'un qui vient d'une autre planète et vous allez lui demander, mais vous voyez quoi dans ce livre? Je vois des lignes, je vois des lignes de fourmis mortes sur un champ de neige. Mais tout le reste, c'est le lecteur qui le fait. Les couleurs, les sons, les odeurs, tout ça, c'est le lecteur.
Pourquoi des fourmis mortes? Le romancier a quand même décidé qu'il y avait cette odeur de violette. Et si vous écrivez qu'elle a un parfum de violette, ce n'est pas un parfum de rose. Si vous expliquez qu'elle a la main sur la hanche, elle n'a pas la main dans ses cheveux. C'est très très précis. Mais c'est vrai qu'il y a du brumeux. Il faut que le lecteur se promène un peu pour essayer de trouver le vrai sens.
En fait, moi je vous donne les portées et puis c'est à vous de jouer. Vous savez, les portées, ben, elles ne chantent pas. Hein. C'est vous qui jouez.
Merci Amos Oz. On marque une pause. On va maintenant écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi Mendelssohn, Song Without Words, Romance sans paroles, chanson de gondolier vénitienne en fa dièse. C'est interprété au piano par Daniel Barenboim. C'était donc Mendelssohn, chanson de gondolier vénitienne en fa dièse, interprétée au piano par Daniel Barenboim. C'est votre premier choix musical, Amos Oz. Pourquoi ce choix?
Parce que j'aime cette musique. Et si vous me posez la question de savoir pourquoi je l'aime, il n'y a pas de réponse à cette question. Lorsque l'on parle de femmes, lorsque l'on parle de musique, il n'y a pas de réponse à ça. J'aime parce que j'aime.
Est-ce que le choix de Daniel Barenboim aussi s'explique dans la mesure où, je l'ai rappelé en introduction, vous êtes aussi un écrivain engagé, et Barenboim l'est aussi à sa façon, puisque avec Edward Said, il a créé cette fondation qui vise à promouvoir la paix au Proche-Orient par la musique, et tout cela s'est concrétisé dans un orchestre israélo-arabe. Est-ce que le choix de Barenboim aussi s'explique par ça?
Barenboim est un ami à moi. Et nous avons fait ensemble plusieurs choses pour la paix. Mais croyez-moi que lorsque je choisis cet extrait bien précis, je n'ai pas pensé à la politique menée par Daniel Barenboim et je n'ai même pas pensé aux Palestiniens. J'ai pensé à la musique et à cet excellent interprète.
Alors vous publiez chez Gallimard, Judas, votre nouveau roman. Et très beau roman, je le redis, parce que vraiment, on a été absolument conquis par ce livre, qui demande aussi un petit effort d'interprétation au lecteur. C'est ce qui fait vraiment le charme puissant de ce livre, Amos Oz. Et dans ce livre, vous vous livrez à une étonnante relecture de l'histoire de Judas. Vous nous en avez parlé dans cette première partie. Judas qui n'aurait pas du tout été un traître, parce que ça ne colle pas. Ça, vous l'avez dit, en tant que lecteur détective, ça ne colle pas. Pas un traître, mais bel et bien le premier chrétien. Et il se serait au fond suicidé, Judas, parce qu'il aurait trop cru en Jésus. Pour lui, Jésus ne pouvait pas mourir sur la croix parce qu'il avait déjà marché sur l'eau, changé l'eau en vin, ressuscité des morts. Donc il allait montrer au monde sa puissance en ne mourant pas sur la croix et tout le monde allait le suivre. D'où vient cette thèse, Amos Oz ? Et est-ce qu'il faudrait définir votre livre, Judas, non pas comme une simple histoire, on sait que le sens du mot histoire est important dans votre travail d'écrivain, mais comme une allégorie, voire une réhabilitation de Judas. Non plus un traître, mais un simple naïf.
C'est l'histoire que Shmuel H. nous suggère. C'est l'histoire d'un croyant quasi fanatique. Et peut-être aussi quelque chose qui nous dit qu'il faut faire attention au fanatisme. Même un fanatisme idéaliste au maximum. Même le fanatisme de quelqu'un qui veut véritablement sauver le monde entier. Même le fanatisme de quelqu'un qui croit qu'une mort mettra un terme à la mort. Mais c'est aussi une autre pensée, une autre façon de voir la traîtrise. Le monde entier le voit depuis 2000 ans comme le traître avec un T majuscule. Il n'était pas traître, c'était le plus fidèle de tous. Shmuel dit à sa mort, à la mort de Judas, c'est ainsi qu'est mort le premier chrétien, le dernier chrétien. Le seul chrétien.
C'est une réhabilitation de Judas. Vous parliez dans cette première partie d'émission à Amos Oz du fait que cet acte de Judas a déclenché 2000 ans d'antisémitisme. Est-ce que par ce roman, par ces thèses-là, et j'aimerais bien savoir d'où elles proviennent, ces thèses-là, où vous les avez trouvées, est-ce qu'on est dans l'invention, est-ce que vous êtes abreuvé à une source particulière, est-ce que par ce roman, finalement, vous faites œuvre de réhabilitation de cette figure de traître, et ce faisant, nous mettait en garde aussi contre le sens des mots.
Attention, Zeyrout.
Attention.
La
réhabilitation, c'est lorsqu'on prend quelqu'un qui est coupable et on prouve qu'il est innocent.
Dreyfus.
Mais bon, mon Judas à moi, il n'est pas innocent. Mais il n'a pas pris d'argent. Il n'a pas trahi Jésus. Il ne l'a pas vendu.
Mais
il l'a cru trop. Il ne faut pas croire trop. Les derniers mots de ce roman que Judas prononce avant sa mort, il les prononce devant un pauvre chien. Il dit les mêmes mots à la première étoile de la nuit. Il dit, chien, ne crois pas. Et il dit à l'étoile, étoile, ne crois pas. Judas, lui, a cru. Et c'est pour ça qu'il a finalement tué Jésus, comme les antisémites le disent, mais pour une raison totalement opposée. Il voulait sauver le monde. Ce n'est pas simplement une réhabilitation. C'est un petit peu plus compliqué que cela.
Quand on étudie l'étymologie du mot traître en français, on tombe sur le mot latin traditor, qui veut dire deux choses. C'est certes celui qui trahit, mais c'est celui qui transmet. Et ça devient encore plus intéressant et encore plus compliqué, pour reprendre le mot que vous venez de prononcer. Compliqué, parce qu'au fond, Judas, on le comprend, est celui qui transmet. Vous en faites le premier chrétien.
À de nombreuses reprises,
Bogued, pashut
Adam traître, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps.
L'histoire
est remplie de gens très importants, très grands, des prophètes, des poètes, des politiques qui ont anticipé sur leur temps. Et la plupart du temps, ces gens-là ont été appelés traîtres.
Shmuel
dit qu'on les a appelés traîtres parce qu'ils ont eu le courage de changer. Au moment où les autres ne voulaient pas de changement, n'ont pas compris le changement, avaient peur du changement et haïssaient le changement. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire.
Précisément, à Amos, l'histoire est très présente. On a parlé de l'histoire biblique à l'instant avec vous, le Nouveau Testament, que vous avez lu donc quand vous aviez 15 ans dans le kibboutz. Mais il y a toute l'histoire d'Israël dans ce livre, et de la fondation d'Israël, avec deux personnages, Ben Gourion et Abravanel, le père d'Atalia, Abravanel qui a été traité de traître par les autres. Et je voudrais savoir, Amos Oz, puisque la dimension de la petite histoire, celle que vous racontez, et de la grande histoire, celle des faits historiques, s'entrelacent énormément dans ce livre. Quel rôle vous donnez à l'écrivain, au romancier, par rapport à cette grande histoire? Est-ce que c'est celui qui remet les choses en ordre, ou simplement qui essaie de faire en sorte que le lecteur voit les choses un peu différemment? Il ne s'agit pas de réhabilitation, vous en avez parlé tout à l'heure, mais...
Excusez-moi, mais je n'aime pas beaucoup cette question sur le rôle de l'écrivain.
Parlons de mission, si vous préférez, ou de...
Non, je pense que le mot exact, ce n'est pas le rôle de la littérature, mais le don de la littérature. Je pense que lorsque nous lisons un bon livre, nous recevons parfois une paire d'yeux et une paire d'oreilles supplémentaires. Nous regardons la millième fois quelque chose que nous connaissons déjà. Et nous le voyons à ce moment-là pour la première fois. C'est ça le don, le cadeau de la littérature. C'est vrai lorsque l'on parle de politique ou de l'érotisme. De tout. Voir pour la première fois quelque chose que l'on a vu des centaines ou des milliers de fois, à mon avis, c'est un don extraordinaire.
Pourquoi vous utilisez le mot voir, voir ou écouter? C'est-à-dire que devant les événements historiques qui sont écrits, on doit les voir et les écouter autrement grâce à l'écrivain?
Tout, il faut tout voir, tout entendre, sinon on vit dans un monde d'abstraction.
Nous
vivons en termes de terminologie, alors qu'il faut vivre dans la blessure. Nous parlons de choses qui sont véritablement des slogans au lieu de ressentir la peine, la douleur. J'écris pour rendre à mon lecteur la douleur, le plaisir, le désir fort, la curiosité. C'est ce que j'essaye de faire. Même avec ce petit sillon qu'il y a chez Atalia entre la base du nez et sa lèvre supérieure.
On va continuer avec vous, Amos Oz, à se promener dans ce très très beau roman, un très fort roman qui est Judas, qui paraît chez Gallimard. On écoute votre deuxième choix musical. Vous avez choisi Tchaïkovski, Les Saisons, le mois de juin. Le mois de juin, Amos Oz, les saisons de Tchaïkovski. C'est drôle parce que quand je convoque mes souvenirs de lecture de Judas, donc votre nouveau roman, j'imagine pas forcément le mois de juin. Je vois des étoiles. D'ailleurs, vous décrivez ces promenades d'Atalia et de Shmuel dans Jérusalem en 1959 comme dans une toile à la Van Gogh. Hein, vous utilisez l'expression avec ces lumières. Mais on est quand même emmitouflé parce qu'il fait froid. On va jouer au détective. On ne sait pas trop bien, en fait, ce que fait Atalia à ce moment-là du livre. Mais vous avez choisi Juin de Tchaïkovski.
Mon roman se passe entre le mois de novembre et le mois de mars. Il fait tout le temps froid, il pleut sans cesse. Juin, c'est ce qui arrive après la fin du roman. À la fin du roman, mon Shmuel sort. Il quitte Jérusalem. Il quitte l'entresol. Il quitte la cave. Il quitte sa cellule monacale. Il sort de prison. Le mois de juin, c'est l'horizon du roman. Et le point où le roman n'arrive pas.
Mais
mon lecteur est invité à poursuivre l'histoire. Fermez le livre et continuez votre marche avec Shmuel.
L'april, le mai, le juni, la chaïtz.
Le mai, juin, l'été.
La midbar, la negev.
Vers le désert, le negev.
Je voudrais savoir, Amos Oz, comment ce roman a été reçu en Israël, puisque dans ce roman, vous parlez beaucoup de Ben Gourion, des grandes guerres héroïques qui ont permis la création de cet État d'Israël. Et vous avez des mots très cruels à travers ce personnage d'Atalia, que je cite. Vous avez voulu un pays, vous avez voulu l'indépendance, des drapeaux, des uniformes, des billets de banque, des tambours et des trompettes. Vous avez versé des fleuves de sang innocent, vous avez sacrifié une génération entière, vous avez expulsé des centaines de milliers d'Arabes. À peine débarqué, vous avez expédié des cargaisons de rescapés de la Shoah directement au front. Tout cela pour fonder un État juif. Et vous avez vu le résultat. Bien sûr, c'est un personnage qui parle. Bien sûr, c'est une femme blessée. Mais dans ce livre aussi, vous ciblez la grande histoire israélienne. Et on est dans un livre qui s'appelle Judas. Et vous confrontez un personnage d'Abravanel, le père de Talia, vu comme le traître, opposé à la figure de Ben Gourion, le héros, et précisément, Atalia renverse la perspective. Comment vos lecteurs ont pris ce livre ?
Il y a des bons lecteurs et des mauvais lecteurs. Les bons lecteurs savent que lorsque Atalia prononce ces mots, ils doivent apprendre quelque chose au sujet d'Atalia et pas au sujet d'Israël. Les mauvais lecteurs lisent Crime et châtiment de Dostoïevski et pensent que Dostoïevski est en train d'assassiner des vieilles dames. Ou ils lisent Lolita de Nabokov et pensent que Nabokov est un pédophile. J'ai des bons lecteurs et des mauvais lecteurs partout. Beaucoup d'Israéliens sont sentis blessés par ce livre. Et beaucoup de chrétiens sont blessés par ce livre dans maintenant plus d'une quinzaine de pays. Et puis il y a 15 autres traductions en route. Un bon lecteur va à l'évidence comprendre que quand je me lève le matin et que je veux dire que Israël est terrible comme pays, ou si je veux dire que Israël, c'est pas si horrible que ça, ou si je veux dire que Israël, c'est pas terrible du tout, c'est pas horrible du tout, je vais pas m'asseoir à écrire un roman pour ça. C'est dommage pour 5 années que je passe à écrire un roman, et ça ne vaut pas une nuit de la vie d'un lecteur. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre, dans ce roman. Je pense, j'espère que toutes sont intéressantes. Aucune ne me représente exactement. Un petit peu, oui. Moi, j'ai écrit un quintet musical. Et ça ne vaut pas la peine de poser la question au compositeur après l'exécution de l'œuvre. Est-ce que vous vous identifiez au violon, au violoncelle, ou à la contrebasse? Non, moi je suis avec tous les instruments, et avec personne en particulier.
Bien sûr, mais vous savez que le lecteur, lui précisément, est la force du roman, et la force de l'empathie que provoque le roman aussi, fait qu'un lecteur va s'identifier à un personnage plutôt qu'un autre. Et même s'il y a de bons lecteurs, des lecteurs intelligents ou plus intelligents que d'autres, vous ne pourrez pas, quand on manipule des éléments historiques aussi difficiles, on ne peut pas faire l'économie de l'identification de l'un à l'autre.
À l'évidence, bien sûr, je serais très heureux, si le lecteur va entendre parler à Barbanel, va s'identifier à lui, va l'aimer. Et puis après 20 pages, lorsqu'il va entendre les réponses de Val et de Ben Gourion, qu'il aime soudain et qu'il s'identifie à eux deux. Et qu'à la fin du livre, que le lecteur préfère l'un ou l'autre, bah, ça c'est ça, la liberté du lecteur. Il y a une histoire chassidique de la tradition juive sur un rabbin. Et deux juifs du village viennent voir le rabbin et ils traînent une chèvre. Et chacun dit, bah, c'est à moi cet animal. Et le rabbin écoute les deux et dit, tous les deux vous avez raison. Et quand il est rentré à la maison, le rabbin, sa femme lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Les deux veulent le même animal. Comment est-ce que les deux peuvent avoir raison? Et le rabbin a réfléchi un petit peu, fait, tu sais quoi, chère femme, toi aussi tu as raison. Quand j'écris un roman, ben moi je suis ce rabbin. Quand j'écris un article, ou que je donne une interview, j'ai des positions qui ne sont pas les positions d'Abrabanel ni celles de Ben Gourion. Mais le roman, il ne vient pas expliquer quelles sont mes propres positions, mes idées. En fait, le roman propose au lecteur un panorama d'idées et de sentiments.
Est-ce que le roman, Amos Oz, et vos romans en général, ne propose pas quand même plus qu'un panorama, mais le choix entre deux tragédies? Vous avez expliqué un jour dans une conférence à propos du conflit israélo-palestinien qu'au fond, c'était pas un malentendu, mais c'était le heurt de deux légitimités qui au fond provoquaient la tragédie. Et vous avez fait ce distinguo entre la tragédie shakespearienne où tout le monde meurt mais où il y a peut-être une justice, à la tragédie qu'on trouve chez Tchekhov, où tout le monde est amer, tout le monde est déçu, mais tout le monde est survivant.
Je vote à 100% pour Tchekhov et pas pour Shakespeare. Je ne cherche pas une fin joyeuse, un happy end. Il n'y a pas de happy end. Je cherche une solution tchékovienne et non pas une solution shakespearienne. J'ai appris beaucoup de Tchekhov. J'ai appris que tous ont besoin de pitié. Les bons et les mauvais ont besoin de cela. Les justes et les moins justes.
Et que
on peut la ressentir et même avoir un petit peu de dépit en même temps. C'est ce que j'ai appris de Tchekhov. Il n'y a pas de fin joyeuse, de happy end dans mon roman Judas. Mais personne n'est mort. À part Jésus mais Judas, mais bon, c'était il y a longtemps. Et même Abrabanel est mort il y a longtemps.
Et
ce roman, en fait, invite le lecteur à débattre avec lui-même. Un débat politique, un débat philosophique et moral, et peut-être aussi un débat sur les sens, les sentiments.
À Mossos, quand vous étiez petit, votre mère se réfugiait dans les livres quand elle avait trop mal. Vous l'avez raconté dans Une histoire d'amour et de ténèbres. Et vous racontiez aussi que, enfant, vous vouliez devenir un livre vous-même par sentiment de sécurité. Mais les livres, on les brûle. En quoi être un livre vous mettait-il en sécurité? Et est-ce que vous vous inquiétez, au fond, des temps qui viennent et du rôle du livre dans ces temps qui viennent?
Oui, quand j'étais enfant, je voulais être livre. Parce qu'à partir de l'âge de 5 ans, je savais à quel point il était facile de tuer des gens. Je pensais que si en grandissant je devenais livre, peut-être qu'un exemplaire à Montevideo ou à Tokyo resterait. Aujourd'hui, je ne veux plus être un livre. Je veux toucher, je veux pouvoir être touché. Je veux me promener, je veux voyager. Je veux manger, aimer. Mais je veux aussi être entouré de livres. Il se peut que les livres de l'avenir ne ressembleront pas à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont complètement différents. Peut-être qu'il n'y aura pas de couverture, il n'y aura pas d'imprimerie. Peut-être. Peut-être que les gens seront allongés sur leur lit avec une petite zapette. Ils vont appuyer sur un petit bouton et au plafond, voilà, une page s'ouvrira. Et en tout cas, quand il fait très froid la nuit, c'est pas mal comme histoire. Mais ça, c'est pour moi. Je suis quelqu'un de très sensuel. J'aime tripoter les livres. J'aime les renifler. Les vieux, les neufs qui sortent de l'imprimerie. J'aime bien aussi les griffonner. Peut-être que les histoires d'amour persisteront même lorsqu'il n'y aura plus de livres. Je ne sais pas si dans 50 ans, il y aura des livres qui seront imprimés entre les couvertures, mais il y aura toujours des histoires. Les romans et les petits-enfants demanderont toujours qu'on leur raconte une histoire avant de dormir. Et ces enfants-là voudront ensuite raconter une histoire. Et lorsque nous irons nous coucher, hommes et femmes, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, il y aura toujours des histoires qui viendront avec nous.
Pour terminer, Amos Oz, je voudrais vous poser une dernière question. Ça fait maintenant des dizaines d'années que vous luttez en tant qu'écrivain aussi engagé pour la paix au Proche-Orient. Je voudrais savoir quel bilan vous en tirez aujourd'hui qu'on voit justement devant nous un monde en chaos, où précisément, à côté des écrivains qui racontent des histoires, eh bien, il y a d'autres histoires qui semblent bien plus puissantes, qui sont ces grandes histoires religieuses qui nous raconte par exemple qu'un jeune homme, en mourant, en se faisant exploser, va aller au paradis et rencontrer des très belles femmes. L'écrivain que vous êtes, n'est-il pas inquiet en se disant au fond avec mes histoires-là, comment je vais rivaliser avec ces grosses histoires mortifères dont on voit aujourd'hui les effets? Vous qui avez combattu pour la paix depuis tant d'années à travers vos livres et vos prises de parole.
Vous savez, 100 ans, c'est très très long dans la vie d'un homme. Dans l'histoire, c'est pas grand-chose. Au Moyen-Orient, Israéliens, Palestiniens, il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués. Moi, je crois beaucoup à la fatigue. Beaucoup de conflits, de très nombreux conflits, se terminent non pas parce qu'une personne trouve la formule magique, mais parce que tout le monde est fatigué. Ils sont « Allez, on va vivre quand même ». Et ça arrive aussi dans le mariage, ça arrive entre voisins. La fatigue, c'est une bonne chose. Mais vous avez raison, il y a aussi d'autres montres, d'autres horloges, il y a l'horloge des fanatiques qui se font sauter. Et les fanatiques, eux, ils ne sont jamais fatigués. Et lorsque un fanatisme cesse, il y a un nouveau fanatisme qui apparaît. Oui, les gens se font exploser en raison d'une histoire. Une histoire très mauvaise. Je ne promettrai à aucun homme sans vierge. Et je ne promettrai d'ailleurs certainement pas à une femme de recevoir sans puceau. Mais en fait, dans une histoire, on ne gagne pas avec les pistolets. On n'impose pas une histoire à coup de revolver. Il faut trouver une autre histoire. Et tout au long de l'histoire, la seule manière de faire arriver une histoire, c'est d'essayer de raconter une histoire meilleure. C'est ce qu'il faut chercher aussi maintenant avec Daesh et avec les fanatiques. Il faut leur raconter une histoire qui soit meilleure. C'est ce que mon roman tente de faire. Au lieu de l'histoire horrible sur le baiser du traître, sur l'argent, sur le meurtre de Dieu. Voilà, nous, Shmuel et moi-même, nous essayons de raconter une histoire meilleure. Il n'y a pas de meilleure façon de se battre contre une mauvaise histoire que de chercher une histoire meilleure.
Merci beaucoup, Amos Oz. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Judas. C'est publié chez Gallimard. C'est traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. On se quitte avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi Clair de lune de Gabriel Fauré. Vous aimez Fauré ?
Mais Aude, beaucoup.
Beaucoup. Je remercie aussi Michel Zlotowski qui vous a interprété, qui était à vos côtés aujourd'hui. À bientôt, Amos Oz.
Merci, merci beaucoup.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes cette semaine avec Quentin Scouvard de la librairie À tout livre, 203 bis avenue Doménil dans le 12e arrondissement à Paris. Bonjour Quentin Scouvard.
Bonjour à vous.
Alors vous êtes venu avec le nouveau roman de Philippe Vasset, La Légende, qui paraît aux éditions Fayard. Alors Philippe Vasset, c'est le spécialiste des zones blanches, grises ou blanches d'ailleurs, troubles, après le cercle polaire, la finance, le voici au Vatican.
Voilà, alors il se trouve que Philippe Vasset a eu une bourse pour être à la Villa Médicis pendant un an et qu'il s'est pris de passion, pas seulement pour le Vatican, mais pour la mystérieuse congrégation pour la cause des saints, qui est une véritable administration, on n'imagine pas du tout, où il y a des centaines d'ecclésiastiques, mais qui sont fonctionnaires et qui passent leur temps à classer, trier des dossiers en sanctification, béatification, alors depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, donc ils reçoivent des monceaux de courriers tous les jours du Salvador, du fin fond d'Italie, les gens ont vu la Vierge, etc. Donc, évidemment, et c'est une machine romanesque à produire de la mythologie énorme. Donc, il s'est emparé de cette administration-là. Il y a, son personnage principal est un ecclésiastique qui y travaille, voilà. Et, ce qui va se passer, c'est que dans cette atmosphère d'irréalité, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un hors-monde du temps contemporain, il va petit à petit dériver. Notamment, il va rencontrer une femme très mystérieuse qui, comme lui, se passionne pour les saints les plus extravagants, les moins en honneur de sainteté, j'oserais dire, voilà. Je ne vais pas trop raconter cette histoire-là parce que, c'est vraiment la, la lente dérive de cet ecclésiastique et de cette femme hors des sentiers battus de cette administration. Et alors la chose qui est absolument admirable dans ce roman, c'est que Philippe Basset a pris ce sujet au sérieux et a entrecoupé cette histoire-là de petites vignettes qui sont comme des hagiographies de la légende dorée. Ou alors, soit que c'est écrit par son personnage principal, soit, c'est évidemment Philippe Vasset qui l'écrit, mais hors contexte du roman, on a une espèce d'illustration du mental de cet ecclésiastique sur son idée de la sainteté. Et donc, les petites vignettes de saints qu'il nous donne sont remarquablement écrites, très très drôles, et dans le style de la légende dorée, donc c'est vraiment un exercice de style tout à fait formidable, et il essaie d'imaginer ce que serait un saint dans le monde contemporain. Et absolument à rebours de Mère Teresa, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, il regrette, l'Église finalement sanctifie des gens consensuels, des gens qui vont dans le sens de la piété ou de l'empathie, alors que finalement, allons aux sources de la sainteté, on est dans la folie, l'extravagance, l'exubérance, le paganisme, pour beaucoup, en fait, des saints les plus anciens. Voilà, et donc plane dans ce roman une très grande érudition qui ne se fait jamais sentir. On est évidemment chez Huysmans, et plus précisément plane la figure de l'abbé Boulan, hein, donc l'abbé Boulan qui était un mystique qui va très mal qui va très mal finir. Donc on est dans cette érudition là, mais qui est vraiment au service du roman, et c'est un vrai plaisir de lecture.
Merci beaucoup Quentin Scouvard pour ce livre que vous nous conseillez. Donc c'est La Légende de Philippe Vasset qui paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Fayard. Je rappelle Quentin Scouvard que vous nous venez de la librairie À tout livre, 203 bis avenue Doménil dans le 12e à Paris.
C'est ça.
À bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Les auditeurs à découvrir votre belle librairie. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Alexandra Bergel et Valérie Lavalard à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure que nous avons passée avec Amos Oz.